Saint Léger.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Des manifestations, encore des manifestations et toujours des manifestations. Les Bulgares mécontents profitent de la présidence tournante de l'UE et surtout du sommet UE-Balkans qui s'est ouvert jeudi à Sofia pour faire parler d'eux, provoquant une belle pagaille dans les rues de la ville. Damien Vodenicharov.
Des milliers de semi-remorques rangées en file indienne sur les routes du pays jusqu'au grand carrefour de Sofia. C'est le comité d'accueil des routiers au sommet UE Balkans occidentaux. Leur demande, changer le paquet mobilité et la réforme du travail détaché initiée par Emmanuel Macron, qui pousserait selon eux les entreprises de transport à la faillite. Les slogans vont de la supplique, Macron ne tue pas le transport bulgare, au calembour inspiré du métier, l'Europe à deux vitesses, pour la Bulgarie c'est la marche arrière. Sur une note plus agréable, les musiciens de la radio nationale bulgare sont également sortis dans la rue pour demander des augmentations de salaire. C'est la tendance depuis le début de cette présidence. Lors de la cérémonie d'ouverture en janvier, c'était les syndicats de policiers qui accueillaient Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, non pas avec des cordons de sécurité, mais avec leurs problèmes financiers. Ils avaient même affiché leur salaire sur un panneau publicitaire en anglais. Les employés du ministère de l'Intérieur sont moins bien payés que leurs collègues dans l'UE. Leur salaire de base est de 340 euros, pouvait-on lire. Le message a par contre disparu du jour au lendemain, sans explication, alors qu'il devait rester affiché pendant des semaines. Les médecins généralistes ont fait des demandes semblables pendant une réunion informelle des ministres de la Santé, au grand mécontentement du ministre bulgare, qui s'était dit très désagréablement surpris. Tout compte fait, cette stratégie semble bien marcher, les policiers ont reçu leurs augmentations en mars. Le gouvernement bulgare, qui avait acquiescé à la réforme du travail détaché, doit maintenant faire machine arrière pour trouver un compromis.
Difficile d'échapper à l'événement. Ce samedi, un prince épouse une actrice dans un château. Tous les ingrédients sont là pour enthousiasmer les Britanniques, ceux qui s'intéressent à la famille royale ou qui ont quelque chose à y gagner. Le mariage du prince Harry avec Meghan au château de Windsor est une occasion pour faire la fête, mais aussi de l'argent, Marie Billon.
Windsor s'est faite belle. Les fanions ont été accrochés dans tout le quartier du château, les rues repavées, les lampadaires repeints, même les pubs refont leur devanture. Georgina est la manager du Spell and the Dragon au pied du château.
On rafraîchit la façade pour l'occasion. On n'a pas eu le choix, c'était obligatoire. Enfin, on avait prévu de le faire de toute façon. On va installer une arche de fleurs aux couleurs du drapeau britannique au-dessus de la porte d'entrée et nous avons concocté un nouveau cocktail en l'honneur de Meghan, le Markle Sparkle, fait avec du vin pétillant anglais et un spiritueux américain.
Les visages d'Harry et Meghan sont aussi partout dans le pub, des photos, des masques collés au mur, même les pompes à bière sont raccord avec le mariage princier.
This is our tap room and shop.
Car pour ceux qui n'aiment pas les cocktails, une bière a en effet été créée par la brasserie locale, juste pour l'occasion, The Harry and Meghan Royal Nut Beer. William Calvert est le superviseur de la Eton & Windsor Brewery, à quelques encablures du château de Sa Majesté.
C'est une tradition dans notre milieu de brasser une bière pour une occasion spéciale liée à la famille royale. Donc pour nous, c'était logique d'en faire une pour ce mariage. Nous utilisons de l'orge de la ferme de la reine juste à côté d'ici, à Windsor, et du houblon de la côte ouest des États-Unis. L'orge représente Harry, et le houblon, c'est Meghan. Alex est justement en train de remplir des fûts avec la bière du Royal Wedding. Nous comptons vendre environ 12 000 bouteilles et 12 000 fûts, donc environ 50 000 litres.
Fut un temps, des fontaines à vin étaient installées lors des grandes occasions royales. Les curieux devront s'en passer cette fois, même si un vigneron de la région du Surrey, dans le sud de l'Angleterre, a décidé de dédier la mise en bouteille de sa récolte de 2015 au Royal Wedding. La cuvée royale est un vin pétillant façon champagne. Et ce n'est pas tout, un pub de Windsor, le Queen Charlotte, spécialisé dans le gin, a aussi créé un ginger gin. Ginger signifiant gingembre, mais aussi roux, la couleur des cheveux du prince Harry. Toutes les occasions sont bonnes pour profiter du mariage et les commerçants de Windsor ne s'en privent pas.
Hello friends, come on in, let's try some fudge.
Sur la rue qui longe le flanc du château, on peut voir dans la vitrine d'une pâtisserie un gâteau dont le glaçage est une photo d'Harry et Meghan. Juste à côté, c'est Matthew, le tenancier d'une échoppe spécialisée dans le fudge, cette confiserie typiquement anglaise qui interpelle les passants.
Ça, c'est un caramel à la fleur de sureau et au citron, au goût de la pièce montée. Le jour du mariage, on commencera la journée avec 10 kilos, donc 60 parts. On en refera au besoin.
Pour autant, le mariage princier comporte quelques désagréments pour les résidents. Vijay est un habitant de Windsor que nous rencontrons par hasard dans la rue.
Je ne pense pas que tous les commerces vont bénéficier du mariage. Les cafés locaux vont perdre leurs clients réguliers. Certains habitants ne vont pas être contents non plus à cause des rues fermées, des difficultés pour se déplacer en raison des contrôles de sécurité. Moi, mon business va être un peu sacrifié pendant une petite semaine. En même temps, il y aura du monde quand même. Alors, comme je suis un marchand de cigares, j'ai créé un duo de cigares cubains appelé Roméo et Juliette, ainsi qu'un autre, le Royal.
Difficile de rencontrer quelqu'un qui ne va pas tirer parti de ce mariage. Même les locaux qui n'ont pas de magasin louent leur maison pour le week-end, parfois pour plus de 1000 euros la nuit. Il faut dire que ce mariage devrait rapporter plus d'un milliard d'euros à l'économie nationale, selon des estimations d'experts. Et la majorité des recettes ne sera pas assurée par les souvenirs classiques, la vente de tasses, boîtes à thé et autres rideaux de douche ornés du visage des amoureux transis rapportera quand même une quinzaine de petits millions d'euros. Les seuls qui y perdent vraiment dans cette histoire, ce sont les SDF, ceux qui dorment dans les abribus juste en face du château et que la municipalité a voulu chasser pour lisser l'image de la ville. C'est sans compter sur une compagnie basée à Londres qui a décidé que eux aussi profiteraient de cet heureux événement.
Great. So this is the plate. Here we have the postcards which come as a set of four.
Revolt de London a créé une série de souvenirs, sept en tout. Tasses, torchons de cuisine, magnets, fanions, sauf que ce n'est pas le minois des amoureux qui les décore, explique Julia.
Nous avons imité le design des objets touristiques classiques. Il y a les armoiries traditionnelles, mais si on regarde de plus près, on voit qu'à la place des lions classiques, de chaque côté, il y a deux chiens qui représentent les compagnons de beaucoup de SDF. Dans un cœur en ruban, au milieu, il y a un bol de soupe à la place de la couronne. En bas, il y a deux bouteilles d'alcool. On n'a pas peur d'évoquer les causes de cette situation. Et enfin, deux tampons, car les femmes dans la rue ont des problèmes d'hygiène particuliers.
Le but est de sensibiliser les gens aux souffrances des sans-abri, sans non plus leur reprocher de savourer ce moment heureux, car il y a aussi des cloches et la date du mariage dans le dessin. Mais c'est aussi de lever des fonds pour une association basée à Windsor.
Le magnète coûte 15 livres et le profit de la vente permettra d'offrir une semaine de repas chaud à une personne. Le paquet de fanions, 40 livres. La préparation d'un entretien d'embauche. L'article phare, c'est une assiette commémorative qui coûte 5000 livres. Le prix de l'hébergement pour une personne pendant toute une année.
Le couple n'est pas associé au projet, mais estime Julia, le fait que le palais ne se soit pas plein est un adoubement.
Le mariage princier à Londres, c'est l'un des sujets européens incontournables à la une de Courrier International cette semaine. Bonjour Virginie Le Petit.
Bonjour Laurent.
Votre hebdo propose un angle plutôt décalé en s'intéressant aux anti-monarchistes.
Oui, c'est bien ça Laurent. En fait, c'est le quotidien britannique The Guardian qui s'est rendu à Leeds où il a rencontré les militants républicains. Alors ce sont ceux qui clament haut et fort dans les défilés et sur leurs tracts que la monarchie doit disparaître. Mais au moment où on prépare en grande pompe le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, leur tâche est plutôt difficile.
Et pour quelle raison Virginie ?
En fait, c'est simple, comme le souligne un des partisans du mouvement. Comment voulez-vous contrer l'émotion par la logique ? En fait, les militants de ce groupe de pression, eux, ils cherchent à proposer une alternative démocratique, crédible à la monarchie. Mais ils ont beau égrener toutes leurs raisons, alors la monarchie coûte cher, c'est 380 millions d'euros par an, ça ne rapporte rien, Charles a même tenté de faire de l'ingérence avec le gouvernement de Tony Blair. Enfin, quoi qu'ils disent, on leur répond tout le temps « mais j'adore la reine ». Et depuis les préparatifs du mariage, cet argument imparable se double d'un « regardez comme la monarchie se modernise, Harry épouse une américaine, métisse et divorcée ». Bon, alors cela ne changera absolument rien à la façon dont le pays est dirigé, mais la plupart des Britanniques s'en moquent.
Ils sont donc bien seuls, ces républicains ?
Ils ne sont pas nombreux, effectivement. D'après les derniers sondages Ipsos Mori, 76% de la population du Royaume-Uni souhaite que la monarchie perdure, et seulement 17% voudraient s'en débarrasser. Mais ça ne décourage pas les républicains qui estiment remplir un rôle de service public. Beaucoup de gens sont républicains sans le savoir, affirme-t-il.
À quelques 3500 km de là, en Arménie, c'est un autre défi démocratique qui se joue pour le tout nouveau Premier ministre Nikol Pachinian.
En effet, cet ancien journaliste a été porté au pouvoir le 8 mai dernier. Il a succédé à Serge Sargsyan, qui dirigeait le pays depuis 10 ans. Mais maintenant, il va falloir gouverner. Et comment ? C'est ce que se demande le magazine russe Ogonek. Parce que Nikol Pachinian, qui a été le héros incontesté des derniers événements, est sans doute digne, sincère, mais son parti est minuscule, mal structuré, sans projet, divisé. Et le paysage politique arménien, quant à lui, est peuplé de personnalités extravagantes, aux grandes fortunes et au passé douteux. La corruption est partout, il n'y a pas un secteur, pas un aspect de la vie quotidienne qui ne soit épargné, poursuit Ogonek.
Alors que va faire Pachinian, Virginie ?
Mais c'est toute la question, parce que, bon, il a le peuple avec lui. Effectivement, les citoyens mécontents représentent 95% de la population du pays. Mais les 5% qui restent sont à la tête des richesses nationales, des administrations publiques, de tout l'appareil du pouvoir. Alors ce que propose Pachinian, c'est qu'il parte. Ok, mais partir où et en emportant quoi ? Alors ce que dit Ogonek, c'est que pour que le réveil national de l'Arménie devienne une réalité, il faudrait confisquer les biens mal acquis, réformer le système électoral. Mais encore une fois, ce sont toujours ces ploutocrates qui sont aux manettes de la justice. Bon, pour le magazine russe, l'immense espoir soulevé par Pachinian risque fort de retomber.
Enfin, Virginie, nous partons pour la Catalogne, où Quim Torra a été élu chef du gouvernement de la région. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre, surtout dans la presse espagnole.
Oui, ce nouveau président catalan a été choisi par Carles Puigdemont depuis son exil allemand. Et il est, pour le quotidien pro-séparatiste El Puntabuí, l'homme de la situation. Alors le quotidien fait même un habemus presidentem en parlant de Torra. Alors il le présente comme un éditeur, un indépendantiste fervent, un homme de dialogue. Il a une expérience d'entrepreneur et de gestionnaire, autant d'atouts pour El Puntabuí, qui quand même connaît très bien le personnage puisque Quim Torra écrit dans ses colonnes. Alors à l'autre bout du spectre politique et national, dans les pages de El Independiente, on a l'éditorialiste conservatrice Victoria Prego qui, elle, taille en pièces le nouveau président catalan. Un homme inexpérimenté qui n'a pas la moindre idée de la manière dont on gouverne quoi que ce soit, un pantin obéissant qui sera manipulé par Puigdemont, un fanatique et son œuvre de soi-disant historien le prouve, et c'est bien pour cette incompétence que Puigdemont l'a désigné, pour rester maître du jeu, affirme-t-elle.
Merci Virginie Le Petit de Courrier International pour cette lecture pointilleuse de la presse. À bientôt.
À bientôt Laurent.
Recep Tayyip Erdogan tiendra son premier meeting à l'étranger ce dimanche à Sarajevo. Le président turc en pleine campagne pour sa réélection compte bien mobiliser la diaspora établie sur le continent européen malgré les interdictions de meeting prononcées par plusieurs pays. En Bosnie, toutefois, sa venue fait quand même polémique, Simon Rico.
L'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas venaient à peine d'interdire à Recep Tayyip Erdogan de tenir meeting sur leur territoire que l'homme fort d'Ankara annonçait sa venue à Sarajevo le 20 mai pour lancer sa campagne à l'étranger et mobiliser une diaspora forte de 6 millions d'électeurs. Selon Yeni Shafak, le quotidien proche du pouvoir, 10 000 Turcs installés en Europe de l'Ouest rejoindront la capitale bosnienne. Les minorités turques vivant dans les pays des Balkans devraient elles aussi faire massivement le déplacement. C'est en tout cas ce qu'espère Recep Tayyip Erdogan, lui qui n'a jamais manqué de déclarer sa flamme à la Bosnie-Herzégovine. Il a ainsi expliqué que Sarajevo comptait autant dans son cœur que les villes turques de Trabzon et Diyarbakir. Après le putsch manqué du 15 juillet 2016, les élites musulmanes de Bosnie lui avaient apporté de leur côté un soutien quasi unanime. Cela illustre bien la popularité dont bénéficie aujourd'hui le président turc auprès des populations des Balkans qui ont le sentiment d'être délaissées par l'Union européenne. Cette venue très commentée fait néanmoins débat dans une Bosnie-Herzégovine minée par les divisions. Côté serbe, on ne manque pas de critiquer la proximité entre Erdogan et Bakir Izetbegovic, le membre bosniaque de la présidence tripartite. De leur côté, les rares formations citoyennes, en dehors de toute appartenance communautaire, s'inquiètent du mauvais signe envoyé à l'Union européenne que la Bosnie aspire officiellement à rejoindre. Au sein même de la communauté bosniaque, certains s'indignent d'une attaque à la souveraineté du pays qui, selon l'ancien ministre de la Sécurité Sadik Ahmetović, ne sera jamais une province pour quiconque, allusion aux 5 siècles de domination ottomane des Balkans.
Bonjour Vincent Thébal.
Bonjour Laurent.
Aujourd'hui dans votre chronique musique, un beau Martin Pêcheur.
Eh oui, c'est en 2011, souvenez-vous qu'on a fait la connaissance de Thomas Jonsson, tandis qu'il publiait son premier album sous l'alias I'm Kingfisher, un très beau disque de folk acoustique inspiré par les expéditions polaires du 19e siècle. Avant cela, le Suédois publiait déjà des disques depuis une dizaine d'années, sous son simple nom et en solo. Et c'est peut-être l'envie d'un retour aux sources qui l'a poussé à enregistrer d'abord seul les nouvelles chansons de I'm Kingfisher en confiant au producteur Carl Edlum le soin de capter simultanément sa voix et sa guitare en des prises uniques. Il aurait sans doute pu les publier telles quelles, mais voilà, Thomas Jonsson a beaucoup d'amis et un vrai don pour les arrangements, et il a plutôt choisi d'inviter une grosse poignée de musiciens suédois à venir ajouter des voix, violon, violoncelle, piano et autres percussions sur les 11 chansons de Transit, sublime troisième album qui vient de paraître. And the story remains the same. If you like me, you don't know me. Father, how could you tell I've been treating my age with a life so sharp it cut like a razor blade, clean through the available line.
Et c'est avec I'm Kingfisher que nous refermons la dernière édition de cette semaine. Accent d'Europe réalisé et mis en onde par Françoise Grelot. À lundi, 17h40 en universel. Et d'ici là, sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio. And when I see...